Est-ce que le nom Nipper vous dit quelque chose? Nipper, N-I-P-P-E-R, c'était un chien. Ça vous dit rien? Non? Le petit chien qu'on voyait écouter la voix de son maître devant le cornet d'un gramophone, hein? His master's voice, c'était le slogan de la compagnie, la voix de son maître en français. C'est entre autres ce que nous apprend ou nous rappelle le musée des ondes Émile Berliner. C'est un tout petit musée qui raconte une grande histoire, celle de l'enregistrement, de la diffusion du son et des télécommunications. Une histoire dans laquelle Montréal occupe une grande place, particulièrement au cours de la première moitié du 20e siècle, à l'époque où la métropole était la Silicon Valley du Canada, finalement. Aujourd'hui, ce musée n'existerait pas sans les membres du Club des Vieilles Lampes. Quel joli nom. Le Club des Vieilles Lampes, c'est un groupe de retraités passionnés de technologie qui répare les appareils anciens et les expose aussi, bien sûr. Et en ce lendemain de la Journée internationale de la radio, nous vous présentons le reportage de Marie-France Abastado qui est allée à la rencontre de ceux qui tiennent ce musée à bout de bras depuis une vingtaine d'années.
Au début de l'enregistrement sonore, parce que les techniques étaient limitées, souvent on enregistrait des ténors ou des chanteurs d'opéra parce que leur voix porte et donc le son s'enregistrait bien. On voit ce disque-là a été enregistré par His Master's Voice Victor, donc on remonte à avant les années 30, ça vous donne une idée.
Ce disque et ce gramophone ne sont qu'un exemple de ce que le musée des ondes Émile Berliner compte de trésors. Une collection de 30 000 objets reliés à la diffusion du son et de l'image, des appareils fabriqués entre 1903 et aujourd'hui. Gramophones, radios domestiques ou militaires, des télévisions aux formes les plus diverses et bien sûr des milliers de disques de 33, 45 ou 78 tours. Des objets qui témoignent de la riche histoire de Montréal en matière d'enregistrement sonore et de télécommunication. Michel Forêt est commissaire d'exposition.
Ça fait peut-être 10 ou 11 expositions que je prépare pour le musée. Et on a exploré la radio, le transistor, l'histoire du jazz à Montréal, les studios d'enregistrement. Et toutes ces recherches-là m'ont appris que Montréal, dans le fond, a été au cœur de tous les développements qui ont fait qu'on a créé le village global qu'on connaît aujourd'hui. Montréal était là pour l'enregistrement sonore avec Berliner au début, avec la radio et la télévision avec RCA. Et plus tard, va partir dans l'espace avec les premiers satellites Alouette. Et donc, Montréal a une riche histoire en technologie de télécommunication et de divertissement qui est très peu connue et que les Montréalais auraient tout avantage à connaître. Alors, c'est un peu le travail du musée d'essayer de faire connaître cette histoire et de la mettre en valeur.
Le disque commence à manquer un peu de force.
C'est l'inconvénient avec les vieux gramophones à ressort. Il fallait les crinquer et éventuellement le ressort se détend et on perd la vitesse.
C'est Émile Berliner, l'inventeur du gramophone, qui a fait construire à Saint-Henri en 1900 l'immeuble dans lequel se trouve aujourd'hui le Musée des ondes. La Berliner Gramophone Company imprime pendant les premières décennies du siècle dernier dans ses locaux des milliers de disques, notamment des artistes locaux.
Le très honorable Mackenzie King, premier ministre du Canada, et le très honorable Ernest Lapointe, ministre de la Justice, parlant d'Ottawa. Le premier ministre.
The Prime Minister.
For months, indeed for years. The shadow of impending conflict in Europe has been ever present.
En 1939, le premier ministre Mackenzie King annonce que le Canada entre en guerre contre l'Allemagne. Les manufactures du pays sont alors mobilisées pour participer à la fabrication d'équipements militaires. Entre-temps, la Émile Berliner Company a été rachetée par la Radio Corporation of America, la RCA, qui n'échappe pas à l'effort de guerre. L'exposition en cours au Musée des ondes porte précisément sur la période 1939-1945. Le commissaire Michel Forêt.
Cette année, on a voulu traiter des années de guerre à Montréal. Ce qu'on a réalisé en faisant la recherche de ce projet-là, c'est que les 6 années de guerre à Montréal ont transformé ce qui était une compagnie de loisirs, de divertissement, qui faisait des radios puis des tables tournantes, en une compagnie de premier plan de haute technologie. On a créé une série de scènes qui montrent l'évolution de ce qui se passait à Montréal pendant les années 39-45.
Qui se passait à Montréal et qui se passait dans l'immeuble RCA.
En particulier dans l'immeuble RCA, mais on a élargi un peu parce que ce qu'il faut comprendre à Montréal, c'est que les efforts de guerre ont réuni toutes les compagnies Marconi, Westinghouse, Northern Electric, qui ont tous contribué à produire les mêmes types d'appareils, les mêmes types de lampes, par exemple, pour l'effort de guerre. Donc, Montréal a produit des quantités astronomiques de radios qui ont servi dans les avions, les bateaux, les jeeps sur le terrain pour les Alliés. Donc, quand on regarde nos radios militaires dans cette exposition ici, on remarque que c'est en anglais et en russe. Parce qu'on ne voulait pas refaire 22 radios, on en avait une, mais tout le monde pouvait s'en servir dans le monde des Alliés.
Sur les étagères du musée, donc, des radios militaires aux boîtiers de métal et des radios domestiques en bois verni. Toutes ne fonctionnent pas, mais certaines d'entre elles ont été remises en état de marche. Et ce, grâce aux bons soins et à la passion des membres du Club des vieilles lampes.
Non, ben, la bonne volonté. Santé.
Le Club des vieilles lampes se réunit tous les mercredis à l'entrepôt du Musée des ondes, au sous-sol de l'immeuble RCA, pour trinquer, manger et surtout pour réparer télévisions, amplificateurs et radios anciennes. Ces retraités proviennent d'horizons différents, designers industriels, professeurs d'histoire de l'architecture ou réparateurs de radios et télévisions de père en fils. Mais ils ont en commun la passion des appareils à diffuser le son, particulièrement quand ils sont à lampe. Rémi Glorieux et Serge Morin.
Serge est en train de réparer un amplificateur. Ça fait déjà plusieurs semaines. On sait quand on débute, mais c'est comme une opération, hein, Serge?
On ne sait pas quand ça se termine. Il faut changer des morceaux, puis tant que ça ne fonctionne pas, il faut continuer à chercher.
Alors, moi, je suis designer industriel. Ce qui m'intéresse dans la radio, c'est beaucoup plus le côté esthétique. Les circuits électroniques, je les comprends parce que par intérêt jeune, j'avais construit ma première radio à cristal. Et puis au cours des années, j'ai construit des amplis, des radios à lampes, des radios à transistors. Mais toujours la question, c'était comment ces circuits-là que je construis, je vais les habiller pour les rendre agréables visuellement à l'œil.
Le Lady Sherbrooke, on a passé en plongée.
Plus loin, Joe Matthews, cheveux gris en bataille et grosses lunettes de métal sur le nez, répare un vieux radio Zénith, un radio qui pourra à son tour trôner sur une des étagères du musée lors d'une prochaine exposition. Car le Musée des ondes et le Club des vieilles lampes sont complémentaires. Le designer industriel, Rémi Glorieux.
Ce qu'il faut dire, c'est que Joe, en fait, et puis Serge font des projets aussi pour le musée. Quand on a une exposition prévue, il y a certains appareils qu'on veut réparer. Le musée Berliner, c'est le Berliner étant l'inventeur du gramophone. On a des gramophones mécaniques qu'on monte à la manivelle. C'était l'an passé qu'on avait eu l'expo disque. Joe avait remonté un gramophone, mais avec un moteur électrique.
Le premier qui ont sorti avec le moteur électrique.
Joe Matthews est un ancien technicien au CNCP Télécommunications. Comme les autres membres du Club des vieilles lampes, il ne jure que par les appareils sonores anciens.
La semaine passée, ils ont apporté une TV LCD. Quel âge qu'elle avait? 5 ans? 5 ans. Irréparable. Carrément irréparable.
Ça vous... Justement, c'est pas quelque chose qui vous scandalise de voir que les appareils aujourd'hui durent si peu longtemps?
Ah, pas rien que scandalisé, ça écoeure. Parce que d'un côté de la bouche, on parle constamment de l'environnement et tout le kit. De l'autre côté, le monde se met en ligne tous les 6 mois pour avoir le nouveau iPhone. Alors, des fois, on cherche à comprendre. Alors que dans le temps, quand on achetait un appareil comme celui-là, c'était sous-entendu qu'on le gardait 10, 15, 20 ans, sinon plus. Puis il marchait pendant ce temps-là. On le faisait réparer quelquefois. Puis... c'était pas l'idée que l'année d'après, il allait avoir un meilleur modèle. Au contraire, généralement, avec le progrès, la qualité se dégrade.
CRCA, okay. Live. Regarde bien.
Ah oui?
Là, on en a deux pareils. C'est deux modèles des années 52. Deux RCA. Puis, il se prend trop de place, fait qu'il faut en liquider une.
Mais amour ou pas pour les appareils anciens, le musée doit se départir d'une partie de sa collection faute de place. Jean Bélier, l'un des cofondateurs du musée, s'y affaire avec Laval Rains, un autre des membres du Club des vieilles lampes.
1999.
Ça, c'est le Don Rochon, ça vient de Westbury. Puis l'autre?
C'est un 2002.
OK, on va regarder. La 2002 est en meilleur état. J'ai l'impression que celle-là a eu plus de vécu. Elle tombe un peu en morceaux.
Non seulement le musée des ondes doit réduire son espace d'entreposage, mais sa salle d'exposition est toute petite. En fait, les moyens dont dispose le musée sont inversement proportionnels à l'importance qu'a eue Montréal dans l'histoire du développement des technologies de télécommunication. Le spécialiste d'architecture industrielle, Jean Bélil.
C'était ici que se concentraient à peu près toutes les grandes industries de haute technologie. T'sais, ici, dans Saint-Henri, il y avait la RCA, qui est l'ancienne Berliner Gramophone. Il y avait à la Pointe-Saint-Charles la Norton Electric, qui est la compagnie d'Alexander Graham Bell. On avait aussi Marconi. La maison mère de Marconi, en Amérique du Nord, était sur la rue William. C'est d'ailleurs là que le premier studio de radio opérationnel au monde a été installé. Fait que, tu sais, c'était une place qui avait beaucoup, beaucoup de choses qui se passaient. C'est comme un peu c'est la Silicon Valley du Canada pour l'époque. Ça casse un peu le mythe qu'on a du quartier ici, qui est un quartier un peu pauvre, défavorisé. C'était pas ça du tout. C'était un quartier où tu avais des ingénieurs, des gens avec beaucoup de connaissances, de la haute technologie.
CBS Marconi. CKC Montréal. CBM Montréal. CBF et sur onze courtes, CBF Y et W Montréal.
Et c'est cette histoire du développement de la technologie que le Musée des ondes aimerait raconter avec plus de moyens qu'il n'en a actuellement. Car il y aurait tellement à montrer, dit le président du Musée des ondes, Pierre Valiquette.
On a une collection d'objets qui sont intéressants, mais on a une quantité importante d'amis collectionneurs qui sont des amis du musée, qui sont des gens qui nous suivent de très près et qui nous ont dit à plusieurs reprises, quand le musée va être bien installé, quand le musée va être capable d'offrir des lieux qui vont permettre de conserver dans de bonnes conditions des objets qui sont fragiles, on va vous donner une partie de notre collection où on va, à la limite, vous donner notre collection.
Mais après le numéro, on peut avoir
un catalogue, 1897, effectivement. Ça, c'est vraiment un des premiers disques qui a été fait à Montréal. C'est expérimental. Il est daté du 24 février 1897. Un beau Berliner gramophone, made by a Berliner, Montréal, Canada.
Et justement, en parlant de dons, le petit-fils d'Émile Berliner vient d'envoyer au Musée des ondes quelques disques anciens de sa collection personnelle. C'est Laval Rains, un des membres du Club des vieilles lampes, et lui-même grand collectionneur qui observe les disques.
On voit que les sillons sont quand même assez clairs, et j'hésiterais pas à l'essayer, à le faire jouer. Parce qu'il n'y a pas de cassure majeure sur la bande extérieure. On a au moins un pouce qui est lisible là-dessus. 3, 2, 1...
Mais le développement des technologies dans l'immeuble RCA ne s'arrête pas à la fabrication de gramophones, de disques et de radios. Dans ces murs, pendant la guerre froide, on a aussi fabriqué le premier satellite canadien Alouette 1. Le commissaire d'exposition, Michel Forêt.
On a produit les premiers satellites canadiens, le Alouette, ici, dans le complexe RCA Victor. On a géré la construction de la ligne de radar qui est au milieu du Canada, ce qu'on appelle le Mid-Canada Line. RCA Victor Montréal a vraiment pris une place importante dans les efforts d'après-guerre, la guerre froide, entre autres.
Et dans le fond, ici, il y avait beaucoup d'ailes de l'usine qui étaient fermées, c'était top secret, n'entrait pas qui veut.
Oui, effectivement, les employés, on a interviewé des anciens employés qui nous ont dit que tu avais des badges qui te donnaient accès à certaines zones, pas à d'autres. Il y avait de la police militaire qui bloquait certains accès parce qu'effectivement, il se faisait du développement qui était à l'époque top secret. On parle de sonar, de radar et d'autres équipements qui finalement ont servi à la défense canadienne après la guerre, pendant la guerre froide en particulier.
Mais pour bien raconter toute cette histoire, il faudrait plus d'argent. Le musée a bien reçu des fonds du gouvernement fédéral pour une étude de faisabilité. Mais maintenant, dit Pierre Valiquette, il faut passer à l'étape suivante.
On a vérifié qu'est-ce qui se faisait ailleurs dans le monde. Et puis, ce qu'on veut faire, bien, c'est un peu unique. Puis ailleurs dans le monde, il n'y en a pas beaucoup non plus. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant. Alors, nous, il faut que le musée soit rentable. Mais un musée, c'est rentable en autant qu'il est soutenu financièrement par sa communauté. Sa communauté, c'est les différents paliers gouvernementaux. Nous, on fait des campagnes de financement annuelles. On va chercher des sous, mais on est tout petit. Ça fait qu'on n'est pas capable d'aller chercher une quantité incroyable de fonds. Alors, c'est un projet qui se développe lentement, là. Je pense qu'avec encore de la patience et un peu de ténacité, là, on devrait y arriver.
En attendant, les membres du Club des vieilles lampes continuent à réparer les appareils anciens pour les futures expositions du Musée des ondes. Rémi Glorieux espère qu'elles contribueront à allumer des passions chez les plus jeunes.
Puis comme j'ai dit précédemment, si jamais dans ce musée technologique, à un moment donné, on génère la curiosité d'un gamin ou d'une gamine pour une technologie, puis qui devient un chercheur fameux, ben, on aura gagné. C'est à ça que sert le musée, finalement.
C'était un reportage de Marie-France Abastado et vous pouvez voir son reportage photo sur le musée en consultant notre site radio-canada.ca/deshôtels-dimanche.